From the Roots Up, CIUT 89.5 FM, Toronto.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Retrouvez ma radio sur le site internet www.radiodenoël.fr. On peut aussi m'envoyer une lettre, écouter mes chansons ou découvrir des marchés de Noël. www.radiodenoël.fr.
La saison des fêtes avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Vous êtes près de 100 000 abonnés à contribuer au succès de notre radio. Alors, merci. Que vous soyez à Toronto, au Canada ou ailleurs, vous, les artisans de justice et de paix, Popourri Show et CUT FM vous souhaitent de joyeuses fêtes. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Prise de Parole fête ses 50 ans en 2023. Un demi-siècle a consacré à amplifier depuis le vaste ciel de Sudbury les histoires émanant des marges, à mettre de l'avant des œuvres littéraires qui éclaire la complexité et la richesse de la francophonie canadienne. Retrouvez les nouveautés littéraires de Prise de Parole sur prisedeparole.ca. Popourri Show, avec vous depuis 36 ans, chaque dimanche, de 11h à 13h, sur www.cut.fm ou sur le câble Rogers 946. Plus de détails sur popourrichaud.com. Longue vie à la maison d'édition Prise de Parole. Merci, merci. Ah, vous êtes nombreux.
Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie sur la bande 89,5 FM, Université de Toronto. Vous pouvez aussi nous écouter en ligne, www.cuq.fm, ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Rogers Cable 946. Et une fois de plus, je vous remercie très chaleureusement de votre grande générosité lors de la collecte de fonds du 13 au 19 novembre dernier. Grâce à la générosité de nos nombreux auditeurs, auditrices un peu partout au Canada et à travers le monde, merci à tous ces bénévoles partenaires, nous avons amassé à ce jour près de 85 000 dollars, je dis bien 85 000 dollars. Et je vous rappelle que l'objectif de la radio est de 100 000 dollars. Alors, vous aimez Popourri Show? La seule, l'unique émission langue française qui vous dépayse et qui vous accompagne depuis voilà 36 ans. Allez, je vous invite à faire un don en ligne, en toute sécurité. Surtout quand on voit ce qui s'est passé chez Radio-Canada cette semaine. Eh oui, la crise des médias qui frappe de plein fouet la télévision, les radios, les journaux ne sont pas épargnés. Et ça va avoir un impact hein, dans les communautés francophones à travers le pays. Allez, sur notre site www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate et visitez tout simplement notre site web, si vous préférez, popourrichaud.com. Et n'oubliez surtout pas d'indiquer votre don à Popourri Show. Je remercie DJ Dovera, ingénieur du son et toute l'équipe de Half House Studio pour la mise en onde de cette émission spéciale. Animation et production, votre serviteur Eric Kader, qui vous accompagne depuis voilà 36 ans. Pour télécharger nos émissions, que vous soyez dans le monde, popourrichaud.com. Et ce dimanche, Popourri Show fête les 50 ans de Prise de Parole avec quatre écrivains chevronnés hors normes Nous accueillerons Sonia Malaborza, lectrice-traductrice, incubatrice d'idées. Sonia prend plaisir à accompagner des autrices, des auteurs, des traducteurs dans l'exercice de leur profession. Elle nous présente son premier livre, Prendre Racine, paru à l'automne 2023, cette année, aux éditions Prise de Parole. Notre deuxième invitée, Isabelle Kirouac-Massicotte, drop-out universitaire, féministe, antiraciste, socialiste. Elle s'intéresse aux littératures québécoises autochtones de langue française, acadienne et franco-ontarienne. Elle nous présente son dernier livre, paru en octobre de cette année, Trash, une première étude fouillée des littératures francophones du Canada. Trash à retrouver sur le site web de priseparole.ca. Et notre troisième invité, Pierre-André Doucet, reconnu pour son éclatante palette sonore et ses textes imagés. Pianiste, écrivain, Pierre-André Doucet est au premier plan de la nouvelle génération d'artistes canadiens. Il nous présente son livre « Des Dick Pics sous les étoiles » paru en 2020 aux éditions Prise de Parole. Et notre dernière invitée est de la ville d'Ottawa, André Lasselle, poétesse, traductrice, enseignante et critique littéraire franco-ontarienne. Récipiendaire de plusieurs prix littéraires très connus en Ontario français, elle nous présente « Dire », un recueil en trois parties paru aux éditions Prise de Parole, un mystérieux condensé de 40 ans d'écriture poétique. Édition spéciale, 50 ans, prise de parole. Une présentation de Popourri Show sur CUT 89,5 FM en partenariat avec prisedeparole.ca. Il y a maintenant 5 décennies, naissait à Sudbury la maison d'édition Prise de Parole. Devenue une véritable référence dans le milieu littéraire franco-canadien, elle publie aujourd'hui des écrivaines, écrivains de l'Ontario français, ainsi que de l'Acadie, de l'Ouest canadien et des nations autochtones. Qu'il s'agisse de romans, poésie, bande dessinée, science-fiction ou théâtre, les livres qu'elle propose rendent compte de la grande diversité que l'on peut trouver dans la francophonie pan-canadienne et surtout de l'originalité de ses plumes qui prennent racine dans les marges pour s'imposer partout, à part entière. Il y a toujours eu dans l'histoire de Prise de Parole le souci de donner de l'espace à des auteurs excentrés qui n'ont pas la même langue que le français standard et qui parlent de leur réalité territoriale, culturelle et symbolique, explique Stéphane Cormier, co-directeur de Prise de Parole depuis 2016, avec Denis Truax, qui pour sa part en est à la barre depuis 1988. Si la question identitaire a été déjà au cœur des préoccupations des écrivaines et écrivains de la maison, elle s'est transformée avec les années, arborant toujours cette idée d'affirmation, mais en la situant dans un horizon plus vaste. Tout au long de 2023, la maison Prise de Parole nous présente un florilège d'activités un peu partout à travers la province de l'Ontario. Et afin de célébrer le 50e anniversaire de la fondation à Sudbury, le 5 mai 1973, le 13 mai dernier, la place des Arts du Grand Sudbury a célébré en grande pompe cet anniversaire avec un spectacle inédit mettant en vedette plusieurs artistes et écrivains. C'était aussi l'occasion de rencontrer 6 autrices autour d'un oiseau nommé Poésie. Lieu dit célèbre l'urgence, la lucidité, la douceur, la colère et tout ce qui brûle dans le ventre des femmes quand elles écrivent. Voici un extrait d'un reportage de Radio-Canada, question de vous plonger au cœur de l'histoire de la maison d'édition Prise de Parole. Nous entendrons dans cette émission, dans ce reportage, dans l'ordre, la voix de Denis Saint-Jules, cofondateur d'édition Prise de Parole, Gaston Tremblay, cofondateur des éditions Prise de Parole, Denise Truax, co-directrice générale et directrice de la maison édition Prise de Parole, Chloé Leduc-Bélanger, éditrice et responsable des projets spéciaux des éditions Prise de Parole. Malheureusement, elle quitte la maison ces jours-ci pour d'autres aventures. Allez, reportage.
On vient chez nous pour un anniversaire important aujourd'hui. La maison d'édition Prise de parole, un pilier de la vie culturelle de Sudbury, célèbre le 50e anniversaire de sa première publication. Félix Allé-Théoret, a préparé ce qui suit.
Créée en 1973, la maison d'édition Prise de parole publie son premier livre, Ling Sing, le 5 mai 1973, l'ouvrage d'un collectif de jeunes poètes qui comprend Denis Saint-Jules.
On allait forcément tomber sur des oreilles sourdes au Québec, et donc la solution à tout ça, c'était de créer notre propre maison d'édition.
De ses départs modestes, la maison d'édition se professionnalise tranquillement jusqu'à ce que l'auteur et cofondateur Gaston Tremblay en prenne les rênes en 1978.
Ce qu'il s'agissait à ce moment-là de donner la chance aux Franco-Ontariens de prendre la parole au niveau littéraire, disons.
Est-ce qu'en Ontario, il faut prendre la parole?
Oui, il faut s'imposer.
On vous la donne pas?
Non, définitivement pas.
Pendant ces années, Prise de parole continue de prendre de l'ampleur en publiant entre autres les auteurs franco-ontariens Robert Dixon, Patrice Desbiens et Jean-Marc Talpé. Denise Truax devient directrice générale en 1988. Depuis, la diversification de l'offre se poursuit, mais l'urgence présente dans les premières publications est toujours centrale à sa mission.
À l'époque, ce qui était vraiment, vraiment important, c'était de nommer qui on est, puis en nommant qui on est, nommer qui on est et notre milieu, donc s'inscrire dans nos milieux. Et ça, ça n'a pas changé. Tout le monde sait qu'on vit, on a des vies plurielles, on n'est pas qu'une chose, on n'est pas que le vert et blanc de notre drapeau, par exemple. On est vraiment très pluriel, donc on est de notre époque.
Aujourd'hui installé dans la Place des Arts du Grand Sudbury, la maison d'édition publie des auteurs provenant de partout au Canada, ainsi que des auteurs autochtones et issus de l'immigration. L'équipe compte aujourd'hui 3 éditrices, dont une en Acadie. Pour souligner ses 50 ans, la maison d'édition lancera le 13 mai prochain le recueil « Lieu-dit », en quelque sorte un miroir du premier recueil publié en 1973.
Ça faisait longtemps que j'avais ça dans mes cartons, cette idée de refaire un collectif, et on s'était dit pourquoi pas pour le 50e. Donc vraiment, là, je parle de 4-5 ans. Depuis que je suis à Prise de parole, en fait, j'avais noté Ling Sing 2.
Une façon de souligner les 50 ans de cette institution, mais aussi de regarder vers l'avenir. Ici Félix Allé-Théoret, Radio-Canada, Sudbury.
Édition spéciale sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. 50 ans, Prise de parole, ça se fait. Et oui, nous sommes tellement fiers d'être aux côtés de Prise de parole, partenaire de longue date, à présenter cette émission spéciale en guise de reconnaissance et en hommage aux nombreux membres, auteurs, autrices au Canada. Je dirais même à travers le monde, parce que nous avons un invité qui fait la navette entre, tenez-vous bien, l'Acadie et la Nouvelle-Zélande. 50 ans à faire rayonner la diversité des littératures franco-ontariennes, autochtones et canadiennes. C'est un moment historique, ce dimanche 10 décembre 2023, sur CUT 89,5 FM, partenaire média officiel de Prise de parole. Contre vents et marées, eh oui, Covid ou pas, et malgré les embûches à l'ère numérique, on peut s'interroger sur beaucoup de questions et entre autres la longévité de la maison d'édition Prise de parole. Qu'est-ce qui différencie cette maison aux autres maisons d'édition? Quelle est sa philosophie? Et je vous invite à découvrir les magnifiques collections de livres de plusieurs auteurs sur le très beau site de prisedeparole.ca. J'aimerais d'ailleurs en faire des heureux ce dimanche. Je vous invite à choisir un livre de votre choix sur le site prisedeparole.ca. Écrivez-moi, dites-moi le titre de votre choix à popourri@cut.fm. Je ferai un tirage, peut-être à la fin de l'émission ou la semaine prochaine. C'est le Père Noël qui va faire le tirage. Alors, popourri@cut.fm, nous aimerions faire des heureux. Allez, prisedeparole.ca. Dans un instant, nous irons au Nouveau-Brunswick, où les œuvres littéraires acadiennes ont finalement trouvé leur place dans les écoles francophones, suite à une décision prise par le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, c'était en 2018, après de fortes mobilisations de plusieurs auteurs acadiens. Prise de parole est très ancrée en Acadie. Vous y trouverez d'ailleurs plusieurs auteurs acadiens sur le site prisedeparole.ca.
Et d'ailleurs, nous recevrons dans la deuxième heure Pierre-André Doucette, pianiste, écrivain du Nouveau-Brunswick, reconnu pour la vivacité de ses paysages sonores et la musicalité de ses textes. Il nous présentera son livre « Des Dick Pics sous les étoiles » aux éditions Prise de Parole. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir notre première invitée qui est déjà passée chez nous il y a quelques années. Elle est originaire de Rexton, au Nouveau-Brunswick. Elle a fait un grand détour vers Toronto, puis Moncton, avant de s'installer à quelques kilomètres du village où elle a grandi. Lectrice, traductrice et incubatrice d'idées, elle prend plaisir à accompagner des auteurs et des traducteurs dans l'exercice de leur profession, notamment à la revue Ancrage et à titre d'éditrice aux éditions Prise de Parole. Sa traduction du roman The Birth House d'Amy McKay, en français La Coucheuse de Scott's Bay, publié par Prise de Parole en 2020, lui a valu une nomination au prix littéraire du gouverneur général et au Héloïse. Il lui arrive aussi parfois d'écrire des textes de son cru. Prendre racine est son premier récit poétique aux éditions Prise de Parole, dans lequel elle renoue avec le territoire qu'elle habite et ses liens d'appartenance avec la région de Quinte. Et oui, voilà, nous accueillons avec plaisir Sonia Malaborza. Bonjour Sonia.
Bonjour Eric, comment vas-tu?
Oui, ça va très bien, alors j'espère que ça passera, hein, parce que je vois il y a un peu d'écho sur la ligne. Alors c'est tout un plaisir de vous inviter dans cette édition spéciale. Nous avons de la chance, hein, aujourd'hui, 50 ans de prise de parole, ça se fête. Nous sommes suivis actuellement en France, en Haïti, à l'île Maurice, en Tunisie, en Belgique, à Whitby, hein, en Ontario, à Montréal. Si vous pouviez décrire rapidement votre relation et collaboration avec les éditions Prise de Parole.
Ben, je suis lectrice de très longue durée. En fait, depuis 2018, je traduis dans les coulées de Prise de Parole. Donc, j'ai commencé à écrire aussi, à accompagner d'autres auteurs. Et je suis maintenant éditrice autour de la table.
Alors, avant de parler de votre livre, pourriez-vous très rapidement nous présenter quelques obstacles qui entravent la circulation des œuvres littéraires en Ontario français et au Canada? Parce que vous savez, on est très, très préoccupés, hein, avec à l'ère numérique, l'intelligence artificielle. Certains se posent des questions sur les œuvres littéraires. C'est un autre débat peut-être. Mais rapidement, quelles sont les étapes à suivre pour publier un livre?
Oh, ben d'abord, il faut du temps. Hein? Il faut du temps de création. Il faut du temps d'accompagnement. Il faut toutes sortes de ressources de ce côté-là. Ouais, les embûches, les obstacles, les défis sont un peu les mêmes qui sont partout parce qu'on compose en Ontario français comme ailleurs avec les mêmes conditions du marché. Mais en plus de ça, peut-être, c'est on a un mandat social de défense dans la marche.
Alors, Prendre racine, un premier récit qui a été très bien accueilli, je vois, dans l'espace médiatique. On peut lire sur le site du regroupement des éditeurs franco-ontariens, que vous connaissez très bien, et oui. Celle qui écrit cette réaction, cette critique, dit « Jusqu'ici, dans les tiroirs, propose un premier recueil ». On sent qu'il y a dans ce recueil une grande mélancolie. Il y a même un chapitre intitulé « Le jour où tout a brûlé ». Est-ce que je me trompe qu'il y a une certaine mélancolie chez vous?
Ben, peut-être qu'il y a certainement une mélancolie. C'est, en fait, pour mettre ce livre dans le contexte, peut-être que la mélancolie a à voir avec un retour chez moi. Au lieu où j'ai grandi. Et c'est un peu ce qui a, déclenché l'acte d'écriture de Prendre racine.
Oui, je vous entends vraiment très mal. Hein?
Je sais, moi, je m'entends mal aussi, puis ça me tape sur les nerfs.
Oui. Très bien. Alors, on va essayer d'y arriver. Comment est né ce premier recueil assez émouvant qui conjugue poésie, prose et essai?
Ben, en fait, c'est quelque chose qui est, comme je l'ai dit, le retour à la maison, le retour là où j'ai grandi, a un peu allumé un besoin d'écriture.
Pouvez-vous nous lire un extrait de « Prendre racine » ?
Oui, mais je commence à perdre espoir qu'on va entendre dans l'écho. C'est en fait la première fois qu'un écho aussi grave que ça est sorti de mon téléphone.
Alors, vous allez essayer, on va voir ce que ça donne.
Je peux. Donc, ce que je vais lire un passage qui vient de Le jour où tout a brûlé. C'est un récit sur le grand feu de la Miramichi qui a décimé un cinquième des forêts au Nouveau-Brunswick en 1825. L'incendie de forêt est une bête féroce qui gronde et qui s'alimente elle-même de l'intérieur. Quand elle ralentit, elle se réchauffe, fait monter en colonne l'air qui s'y trouve et crée de l'espace. Vous m'entendez vraiment fort?
Non, ça va, on vous entend.
Ah, OK. Donc, quand elle ralentit, elle se réchauffe, fait monter en colonne l'air qui s'y trouve et crée de l'espace pour les masses de gaz qui lui servent de poumons. Ce jour-là, quelque part entre la rivière Miramichi et les abords de la Wolastoq, la tempête de feu a atteint une telle intensité que les flammes ont engendré leur propre système de vent. On dit qu'il soufflait sur toute la région des bourrasques dont l'ampleur approchait l'ouragan. C'est que les flammes dans les arbres s'étaient creusées une cheminée. Tout le long de la rivière, l'incendie a pris au dépourvu des gens qui n'ont pas su mesurer sa force ni sa vitesse. Pas plus qu'ils n'avaient su lire les signes avant-coureurs. Au cours de la nuit, des familles entières ont plongé dans les eaux léchées par les flammes, s'accrochant aux flancs des bêtes de somme qui les suivaient. On apprendra plus tard que les feux ont brûlé ce soir-là sur des centaines de kilomètres, faisant de ce brasier l'un des plus grands jamais enregistrés en Amérique du Nord. On dit qu'il s'est retrouvé jusqu'à Rechubuktu, que la tour Saint-Charles reste noire par endroits à cause des flammes qui s'y sont attardées. Pendant plusieurs jours, des nuages de fumée et une ardeur de source ont flotté dans le ciel là-bas jusqu'à Québec. Des milliers de gens ont manqué à l'appel. Personne ne sait combien de bûcherons ont perdu la vie dans la conflagration, ni combien de communautés autochtones ont été touchées. Acteurs discrets en marge de l'histoire, ils n'ont pas été pris en compte au moment d'écrire des documents officiels. On ne peut qu'en deviner les contours.
C'est bien.
Ce jour-là?
Oui, alors moi j'ai un autre, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à saisir ce que vous venez de dire, moi j'aimerais lire un texte que j'ai retiré dans votre livre, avec votre permission bien sûr, j'aimerais le lire. Alors, l'horizon est immense ce matin, tant de bleu se décline dans le ciel et je n'arrive pas à compter toutes les teintes, sur mes lèvres un goût de sel. Au loin, un bateau de pêche se fraye un chemin vers la ligne d'échappée. Plus près du rivage, un attroupement de phoques roule dans l'écume, bercé par les vagues. Le varech forme de petits amas, signale la hauteur des dernières marées sans cesse bouleversées par les nouvelles jetées. Je respire un bon coup, sens monter une mélancolie dont la profondeur m'étonne chaque fois. Comme si une brèche s'ouvrait. On sent dans ce recueil, Sonia, une grande mélancolie, comme on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi un chapitre intitulé « Le jour où tout a brûlé ». Et donc, c'est un texte qui, quand même, peut-être c'est ça que vous avez essayé de lire, hein, j'ai pu comprendre tout
oui,
à l'heure.
Exactement.
Alors, donc, on est sur la même longueur d'onde. Hein. Alors,
absolument.
Donc, et ce texte que je viens de lire rappelle un peu mon enfance. Vous savez, je suis né dans une île de l'océan Indien, 15 000 milles du Canada. Et vous écrivez, quand j'étais petite, ma mère m'interdisait de marcher pieds nus sur la plage du village, de peur qu'un éclat de porcelaine m'entaille la plante. J'avais l'impression à l'entendre qu'un passé vengeur guettait mes pas. Les histoires de ce territoire, fait de tempêtes, d'absences involontaires et de deuils irrésolus, ne sont pas tout à fait les miennes. Je me sens pourtant appelé à les déplier, ne serait-ce que pour meubler la solitude qui m'habite depuis que je suis revenu m'installer près du Mokok du Cap. Je cherche des amarres à ce lieu où j'ai grandi, un moyen d'adoucir la brûleur de l'étranger qui résonne jusque dans ma moelle. Mais j'ose à peine tendre la main vers la braise du passé, de peur de m'y perdre tout à fait. Sylvie Mousseau de l'Acadie Nouvelle a bien aimé votre livre, Sonia. Elle écrit, je cite, « Dans ce recueil émouvant qui conjugue poésie, prose et essai, l'autrice qui a grandi à Rexton cherche les amarres qui la relient au village de son enfance. » Vous savez, plus on vieillit, on a toujours cette tendance de retourner à notre passé, notre enfance. Est-ce que je me trompe? C'est ça qu'on retrouve à travers ce texte.
Il y a beaucoup de ça. Le retour aussi a été motivé par des circonstances professionnelles. Mais certainement, c'est le temps. C'est la quarantaine, peut-être, qui déclenche ce retour.
Alors, il faut rappeler aux gens que vous avez vécu un peu à Toronto, je ne sais pas combien d'années. Est-ce que vous avez aimé Toronto? Vous gardez un bon souvenir de cette ville?
Absolument.
C'était dans quelle année?
2000 à 2003.
Mm-hmm. Et ça fait loin quand même maintenant. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec des gens de Toronto? Alors, votre travail quand même, c'est assez intéressant, passionnant. Comment faites-vous pour justement, quel est votre quotidien de jour en jour? Est-ce qu'on peut gagner sa vie finalement avec le travail que vous faites en ce moment?
Assez bien quand même. C'est un travail multitâche. Je suis sur plusieurs projets à la fois, mais dans toute la tranquillité, il y a toujours des liens. Et oui.
Il y a une autre personne qui a écrit une très belle critique sur votre livre, Racine, Prendre Racine. Pauline Brise de Voix Plurielle qui dit tout d'abord, tout autour d'elle, Sonia Malaborza crée l'espace de sa famille, de ses enfants et offre aux lectrices, aux lecteurs un terreau imaginaire malaxé par les épreuves et les deuils de tout un passé d'où est né toutefois un quotidien chaleureux. Œuvre littéraire canadienne, c'est beau, hein?
Oui, oui.
Voilà un beau cadeau, madame, monsieur, que je vous invite à visiter sur le site de prisedeparole.ca, Prendre Racine des éditions Prise de Parole de Sonia Malaborza. C'est votre premier livre, c'est ça?
Mon premier livre, pas ma première écriture.
Oui. Et vous avez d'autres projets pour 2024?
Absolument. Une traduction.
Ah, c'est bien. Et d'ailleurs, vous en avez fait d'autres traductions hein, dans le passé.
Oui, j'ai fait La coucheuse de Scott.
Exactement.
La femme du capitaine aussi, pour une autre maison d'édition en 2014.
Et
du théâtre.
Et pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'on devient écrivain, poétesse, poète? Pour les jeunes qui sont à l'écoute, et vous savez, nous sommes écoutés à travers la planète, est-ce qu'il y a une culture d'écriture? Vous savez, avec l'Internet, les réseaux sociaux, on dit que les jeunes écrivent mal, ils ne lisent plus. tout le monde est comme désemparé. On trouve que, bon, alors ça dépend des sondages. Hein. Dans d'autres pays, on trouve par exemple pendant la période de Covid, il y a eu une augmentation de lecteurs au Québec, en France. Je ne sais pas ce qu'il en est en Ontario, mais je sais, avec mes conversations avec Stéphane Cormier, vous avez vu quand même une remontée dans les ventes pendant la période Covid. Est-ce que au Canada français, il y a une culture de lecteurs? Est-ce que ça fait partie de la culture francophone, pensez-vous?
Je pense, j'ai bon espoir que oui. Les chiffres de vente, comme Stéphane l'a indiqué, montrent qu'il y a effectivement des gens en rendez-vous. Chez moi, j'ai une jeune lectrice et un jeune lecteur. Le défi, c'est souvent le temps. On est distrait. On est distrait souvent à l'ère numérique par tout ce qui est alléchant, qui est au loin, à notre écran. Mais si on peut fermer un peu et prendre le temps de lire, c'est en lisant qu'on lit, qu'on apprend à lire, c'est en lisant qu'on apprend à écrire aussi.
Oui. Prendre racine des éditions Prise de parole, Sonia Malaborza, lectrice, traductrice et incubatrice d'idées. Elle travaille également aux éditions Prise de parole comme éditrice pour les provinces de l'Atlantique. Si ce livre vous intéresse, écrivez-nous immédiatement popourri@cut.fm. Tirage au sort au courant de la semaine. Mille merci, chère Sonia, et tous nos voeux de bonheur et longue vie aux éditions Prise de parole, et que la force soit avec vous. J'espère qu'on aura de meilleures conditions dans les mois à venir pour vous avoir à nouveau à notre antenne.
Désolée pour la ligne.
Au revoir.
Au revoir.
Bienvenue à la nuit sur les terres.
J'ai commencé à penser à la nuit sur le temps, puis la nuit sur le temps, tant qu'à moi, c'est la folie collective d'un peuple en party.
Prise de parole fête ses 50 ans en 2023. Un demi-siècle a consacré à amplifier depuis le vaste ciel de Sudbury les histoires émanant des marges, à mettre de l'avant des œuvres littéraires qui éclairent la complexité et la richesse de la francophonie canadienne. Retrouvez les nouveautés littéraires de Prise de parole sur prisedeparole.ca. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une édition spéciale avec des auteurs franco-ontariens et canadiens. Une présentation de Popourri Show en partenariat avec les éditions Prise de parole. Popourri Show, avec vous depuis 36 ans, chaque dimanche de 11h à 13h. Sur www.cut.fm ou sur le câble Rogers 946. Plus de détails sur popourrichaud.com. Longue vie à la maison d'édition Prise de parole.
Édition spéciale, 50 ans Prise de parole, ça se fête. Émission de reconnaissance, en guise de reconnaissance et en hommage aux éditions Prise de parole qui célèbrent le 50e anniversaire de leur fondation en 2023. 50 ans à faire rayonner la diversité des littératures franco-ontariennes, autochtones et canadiennes. C'est un moment historique, ce dimanche 10 décembre sur CUT 89,5 FM, partenaire média officiel de Prise de parole. Et je vous rappelle le tirage au sort d'un livre de votre choix. Veuillez visiter les belles collections sur prisedeparole.ca. Écrivez-moi à popourri@cut.fm. Voilà de très beaux cadeaux pour les temps de fête. Avant de passer à notre deuxième invité, j'aimerais saluer la précieuse collaboration de Juliette Bizali, qui est responsable des relations de presse et de la communication chez Prise de parole. Un de nos coups de cœur à lire absolument, Wellsford, des éditions Prises de Parole. C'est le premier roman de Claude Guillemin paru en octobre 2023. C'est un ouvrage qui s'inscrit dans la veine du roman policier social avec une intrigue rythmée par l'alternance de différentes temporalités. Des ossements vieux de 50 ans ont été découverts sous une piscine du quartier où a grandi Franck. Narrateur et enquêteur, ce qui l'oblige à revenir sur les lieux de son enfance et à renouer avec ses relations de l'époque. Cinéaste et dramaturge de formation, Claude Guillemin, très connu ici dans la région de Toronto, dépeint avec beaucoup d'aisance la réalité socioculturelle des classes moyennes vivant dans les banlieues de Toronto à partir des années 1960. C'est le premier francophone qui se concentre sur ce phénomène social des plus américains, à retrouver bien sûr sur prisedeparole.ca. Il y a d'autres coups de cœur, malheureusement j'ai pas le temps. Dans un instant, madame, monsieur, donc nous allons passer à notre deuxième invité, édition spéciale, 50 ans prise de parole en partenariat avec CUT 89,5 FM. Notre deuxième invité a abandonné, décroché le milieu universitaire. Titulaire d'un doctorat en lettres françaises, elle s'intéresse aux littératures québécoises autochtones de langue française, acadienne et franco-canadienne. Son premier essai, Des mines littéraires, l'imaginaire minier dans les littératures de l'Abitibi et du nord de l'Ontario, paru en 2018 chez Prise de Parole, s'est mérité le prix Champlain en 2020, ainsi qu'une nomination au prix du Canada 2020. Elle est éditrice, rédactrice pour la revue Relations à Montréal. Elle a organisé pas mal d'ateliers, de colloques, de tables rondes et conférences. Elle dit, je cite, « Je suis féministe, antiraciste et socialiste ». Elle nous présente aujourd'hui son dernier livre, Trash, une esthétique des marges dans les littératures francophones du Canada, paru en octobre 2023 aux éditions Prise de Parole. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois l'auteur de Trash. Bonjour Isabelle Kirouac-Massicotte et bienvenue à cette édition spéciale 50 ans Prise de Parole. Comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien. Merci de me recevoir.
Oui. Alors, en lisant votre biographie, je dois vous avouer que j'ai eu un peu de mal à cerner ce personnage. On sent chez vous que vous aimez pas les étiquettes. Vous êtes anticonformiste. On ne peut pas vous placer dans une case quelconque. Qui est Isabelle Kirouac-Massicotte?
C'est une vraiment très grande question qui me demande de me canaliser moi-même de ma tête. mais oui, effectivement, je pense que j'ai toujours eu une posture dans les marges, même dans les milieux universitaires, puis c'est une posture qui s'est finie par m'épuiser, qui j'ai voulu changer de vie récemment, donc un gros changement de carrière. Je suis revenue vivre à Montréal après une absence de plusieurs années que j'ai beaucoup promené, puis j'ai posé mes ténates à la rémunération qui œuvre justement pour visibiliser les personnes marginalisées. Donc, pour moi, c'est tout à fait cohérent de ne pas utiliser là.
Alors, de l'imaginaire aminé dans les littératures de l'Abitibi et du nord de l'Ontario, une étude qui creuse un champ de recherche peu exploré dans les études littéraires au pays, des mines littéraires qui vous a valu le prix Champlain en 2020. Vous nous présentez aujourd'hui Trash, votre dernier livre, une autre étude, mais cette fois-ci une étude qui s'inscrit dans le champ des vastes de Waste Studies. Ou, si vous préférez, déchets matériels et symboliques, une esthétique des marges dans les littératures francophones très peu étudiées hein, en littérature au Canada. Pour le commun des mortels, pourriez-vous nous expliquer, en des termes simples, le but ultime de cet ouvrage?
Oui, avec ce livre-là, je voulais montrer que le trash, c'est pas nécessairement c'est quelque chose qu'il fallait discuter, en fait. Parce que je ne sais pas si vous, personnellement, c'est un terme que vous utilisez pour parler, de, par exemple, d'un film que vous venez de voir, que vous avez trouvé particulièrement violent, graphique ou pornographique, même, de dire « Ah, mais c'était bon, ben, trash ». Puis souvent, la discussion va s'arrêter là, on ne va pas essayer d'aller plus loin, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment être trash? Quels sont les paramètres de cette esthétique-là? Donc, c'est vraiment de donner sa place à cette notion-là qui est souvent rejetée du revers de la main. que j'ai écrit ce livre-là, en fait. Et pour moi, les littérateurs francophones du Canada, avec leur statut humanitaire, étaient un terrain jeu vraiment favorable pour explorer cette mission-là que selon moi, est souvent liée aux marges, des marges qui ont besoin de crier avec distance, qui ont besoin d'affirmer leur place dans le domaine du visible, si je peux dire dans les termes un peu comme le philosophe Jacques Rancière, c'est du point de vue de mon travail.
Alors, en outre des articles publiés sur le trash dans les littératures francophones au Canada, le terme est aussi employé par Sébastien Lavoie en 2005 dans un article consacré au trash dans la littérature québécoise. Pour Lavoie, le trash équivaut à un retour du refoulé dans la littérature québécoise longtemps sous l'influence de l'idéologie du terroir. Selon lui, la littérature trash dépeint la déviance et il considère que Victor Lévy-Beaulieu et Christian Mistral sont les pères de cette esthétique au Québec. Le trash, continue l'article, le trash de Lavoie ne concerne pas uniquement la déviance. L'auteur mentionne également le culte de l'image, la société de consommation et l'impossibilité de la transcendance dans les espaces urbains. C'est un livre qui ne laisse personne indifférent, n'est-ce pas, Isabelle? C'est écrit dans un style hors norme, une étude, une analyse qui jette un regard sur notre société. D'ailleurs, j'aimerais ça que vous nous lisiez peut-être un petit texte, si vous en avez le temps.
Oui, absolument. Je vais vous lire un extrait statistique qui porte particulièrement sur les littératures autochtones. Donc, l'une des autrices que dans ce chapitre-là, c'est Anne-Anthony Cattis. À qui l'on doit laisser coup de poing, l'étude du monde de sauvagesse, qu'elle a fait paraître en 1976. Donc, ça suit comme suit. L'essai de l'étude du monde de sauvagesse d'Anne Anthony Cattis est un bon exemple de critique du déchet colonial en littérature autochtone. Publié pour la première fois en 1976 chez l'ENEAP, dans une édition bilingue en inuit et en français, cet ouvrage est l'un des textes fondateurs de la littérature autochtone du Québec. Emblématique de cet ensemble littéraire né de la révolte dans les années 1970. Plus encore que de le contester, de dénoncer et d'affirmer sa singularité devant le colonisateur, Cattis utilise une rhétorique infaillible afin d'exposer le colonialisme trash. À travers sa prose, elle dévoile ce que Cecily F. Brown appelle la garbageisation, terme qu'elle a créé pour nommer les dynamiques sociales et sa rhétorique. Utilise les effets comme métaphore pour certains individus, ainsi définis comme des êtres végétaux. Pour Brown, cette rhétorique sert à renforcer et à réitérer les hiérarchies, que ce soit de classe, de genre, de race ou colonialisme. L'écriture de Cattis se fait en renversant de cet état des choses en présentant l'origine comme étant coloniale et le colonialisme comme étant face. Dans une langue épurée et laconique, dépourvue de fioriture, Cattis dépeint la logique coloniale perverse qui construit les dinos comme étant des êtres jetables, des déchets humains. Le chapitre 5, intitulé Le marchand d'alcool, est particulièrement évocateur à cet égard. L'autrice présente les dinos comme des individus dont on peut discuter après consommation, je la cite. Les Indiens allaient le voir depuis quelques années seulement quand le marchand d'alcool a agrandi son bar et l'a transformé en bar salon où seuls les Blancs étaient admis. Et il s'est arrangé pour que les Indiens utilisent une porte sur le côté afin qu'ils ne pénètrent pas dans le bar salon. C'est à ce moment-là que le marchand d'alcool a commencé à vouloir manifester et à vouloir insulter l'Indien. Le marchand d'alcool ne laisse entrer les Indiens que dans une cave malpropre. Le bar de la cave est très sale et très sombre. On interdit aux Indiens d'aller dans le bar salon, et pourtant ce bar, c'est leur arme. Donc, si la rhétorique de Cattis met en opposition un champ sémantique de la saleté associée aux Indiens à une autre de la propreté associée aux Blancs, c'est seulement pour montrer la fausseté de ces catégories créées par le colonialisme. L'autrice invite à considérer le déchet et par extension la saleté au-delà de l'apparence immédiate, à les appréhender comme révélateurs d'un système. La qualité des déchets des dinos, selon la logique colonialiste, est attribuable à l'exclusivement de leur valeur, de leur utilité au système, qui est sûrement monétaire dans le cas de l'agrandissement de l'État. Voilà.
C'est bien. Alors, je vais aussi lire. La communication est très mauvaise aujourd'hui. Je pense qu'il y a un problème quelque part sur notre réseau. Alors, j'aimerais lire aussi un court extrait de votre livre que je trouve très bien. Vous parlez des femmes. Les femmes mises en échec sont déclassées en raison de leur proximité avec les excréments de leur pratique du care. Néanmoins, ce déclassement n'est pas forcément le résultat de la seule catégorie du genre, si l'on pense aux préposés, aux bénéficiaires, et c'est surtout à l'intersection entre le genre, la classe sociale et la race qu'il faut réfléchir. Car ce sont bien souvent des femmes racisées, vivant dans la pauvreté, qui sont confinées à ces rôles. Ces aidantes deviennent jetables, et ce, même si elles sont absolument indispensables au maintien de la vie. Or, les systèmes colonial, patriarcal, raciste et capitaliste reproduisent cette main-d'œuvre remplacée, sitôt jetée. Et un peu plus loin, vous écrivez, à l'inverse des aînés condamnés au domaine du bas par leur incontinence et leur inutilité au système, les bébés sont notamment valorisés en raison de leur rapport futur à la reproduction systémique, qu'il s'agisse d'enfantement ou de travail salarié. Vous écrivez aussi le corps trash et cette réalité dérangeante qui nous sert de rappel de notre propre mortalité. Ouf, je dois dire, c'est tout un constat, hein, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, je voulais vraiment sortir de la simple lecture de la littérature en tant que telle, parce que je ne suis pas la seule à le dire, d'autres auteurs le disent aussi, le trash, ça peut vraiment être une façon de nous ouvrir les yeux, un traitement de choc en quelque sorte, pour voir les choses telles qu'elles sont et de voir que ce sont les effets qui ferment la création des déchets au fond, parce que les faits, qu'ils soient humains ou matériels, n'existent pas en soi. Donc, c'est pourquoi, en conclusion, j'ai voulu nous ramener à des moments trash de notre histoire très récente et même actuelle.
Oui. Il y a aussi un autre chapitre intitulé « Esthétique, trash, waste, colonialism et résurgence dans les littératures autochtones ». En tout cas, personnellement, en lisant votre livre, cela nous pousse à la réflexion. Trash aux éditions Prise de Parole.ca et tirage au sort d'un des livres de la belle collection de Prise de Parole. Je verrai bien, hein, Isabelle, si les gens vont choisir votre livre. C'est notre sondage de fin d'année, hein. C'est bien de lancer, de pousser les gens d'aller sur le site de Prise de Parole.ca pour aller voir les belles collections. C'est très beau, hein, le dernier site de web de Prise de Parole, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est vraiment bien fait.
Alors, quelle est votre relation avec Prise de Parole? Ça fait combien d'années vous êtes en lien avec Prise de Parole? Et qu'avez-vous à dire comme vœu? Comment voyez-vous l'avenir de cette maison d'édition?
Écoutez, moi, j'ai eu la chance de publier mon premier livre avec eux, donc des mêmes littéraires, parce que l'été qui est sorti de ma thèse de doctorat, puis ils m'ont donné ma première chance, et ils m'ont tout accueilli à bras grands ouverts. Je n'oublierai jamais le travail qui a été fait avec moi. On a l'impression d'être en famille quand on est avec Prise de Parole. Je suis certaine que ce n'est pas nécessairement le cas de toutes mes maisons d'édition, donc c'est un gros avantage. Oui. Les rapports personnalisés qu'on développe avec tout le monde, que ce soit avec Stéphane, Denis, encore plus récemment avec Chloé. Puis la même belle expérience que j'ai faite avec mon dernier livre, avec Tash. Donc, de faire partie de cette grande famille-là, avec une de leurs autres maisons, pour moi, c'est un très, très grand privilège. Et je vois juste des belles choses dans l'avenir pour Prise de Parole. C'est toujours aussi se renouveler, mais en même temps, garder son essence, garder son esprit, son parti pour les marges, pour les Prises de Parole, les mâmes, les marges. Et je vois juste des grandes choses, notamment du point de vue de la littérature autochtone et de la littérature queer qui vont s'affirmer encore plus, d'après moi, dans les pages publiées par Prise de Parole.
Et oui, Isabelle Kerouac-Amassicot était notre invitée, madame, monsieur. Je vous remercie infiniment. Revenez nous voir pour partager un peu vos œuvres et votre vision sur les actualités culturelles ou littéraires au pays. J'aimerais bien vous rencontrer un jour en personne, peut-être à Montréal ou à Toronto, qui sait. Alors, je vous souhaite tous nos vœux de bonheur pour 2024 et beaucoup de succès. Merci encore, bon vent et que la force soit avec vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Okay, yeah, moi je suis qui, ouais, yeah, moi je suis quoi,
t'as le tourbillon des superfilles du roi, qui ont unifié le français. Ici au Canada, je fais l'interprète comme Mathieu Dacosta. De Niagara à Matawa à Wawa.
Je sors sur le métro, je rêve tout haut. Fier comme une tour bien enracinée. Je prends le train, go, je chante tout haut. Je parle en français, chez nous en Ontario.
Et dans la culture francophone, yeah, yeah, yeah. Et pas comme une scène de flashy.
Le bruit céleste, la plus longue rue du monde. Yeah. À mes oreilles, mes dialectes abondent. Uh-huh. Des premières nations aux derniers arrivés. Je vis dans un monde plein de sonorités.
Comme Jing Ma Opi sur NUFL. Ma langue, c'est le pont de cette tour des Babel. Partout en Ontario, au pays d'en haut. Autour du monde, je monte toujours plus haut. Yeah.
Et maintenant, je te crois pour Ontario.
Yeah.
Et faut comme une scène de chute.
Yeah.
Tout tourne en l'air, je commence à m'essouffler. Je saute dans un canot, oui, je dois filer vers ma nature pour retrouver mes racines, mes trésors de famille, mes origines.
Puisqu'on est plus qu'une chose dans la vie, grand comme une tour, mon cœur a plein d'amis. Un vent de chez nous me rappelle qui je suis. Moi, je ne m'assimile pas, je m'enrichis. Yeah.
Fier d'être venu et d'être resté, d'être encore là après tant d'années.
Belle ville, Noéville, Riceville, Springville. Fin fond des bois comme au centre-ville. Yeah. 400 ans Lego. Qu'on est ici. Du monde venu de plein de pays. D'Haïti, d'Europe, d'Asie et puis d'ici. D'Afrique, du Vietnam, come on, Lego Man.
Et moi, ma culture franco-ontarienne. Et faut que nous sommes sur la chute. Pour
l'air coloré.
Si c'est coloré ensemble, continuons le party.
Encore, ouais, c'est ça.
Et moi, ma culture franco-ontarienne. Et faut que nous sommes sur la chute.
Tous pareil. Ok. Yeah. Moi je suis qui? Ouais. Yeah. Moi je suis quoi?
C'est le tourbillon des super filles du roi qui ont unifié le français. Ici au Canada, je fais l'interprète comme Mathieu Dacosta. De Niagara à Matawa à Wawa.
Je saute sur le métro, je rêve tout haut. Fier comme une tour bien enracinée. Je prends le train, go, je chante tout haut. Je parle en français, chez nous en Ontario.
Et dans la culture franco-ontarienne,
yeah, yeah, yeah.
Et faut comme une scène de chute.
From the roots up, CIUT 89.5 FM, Toronto.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Au Pourrichaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFOU, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFOU, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du Créfaux et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'état dans divers contextes du monde. Quoi de neuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Vous êtes bien sûr CUT 89,5 FM à Popourri Show, 36 ans déjà, on est si bien ensemble. Quelques dernières nouvelles de nos partenaires. Le CREFO vous annonce la parution du livre « Voix et visage » du français en Ontario, perspective de pédagogue en formation, dirigé par professeur Emmanuelle Puchon, aussi directrice du CREFO, et préfacé par professeur Diane Gérin-Lajoie. Ce recueil, enrichi par les contributions de 19 enseignantes et enseignants en formation offre dans les différentes perspectives sur l'enseignement du français en Ontario et vous invite à découvrir quelques voix et visages d'enseignants qui façonnent le paysage éducatif. Chaque chapitre de ce livre vous plonge dans des récits de vie parfois poignants, parfois joyeux, toujours riches en diversité linguistique. Ils explorent les thèmes de l'insécurité linguistique, de l'identité, de la discrimination, de la minorisation, de la mobilité, des idéologies, de la colonisation et des savoirs. Vous découvrirez que finalement il est possible de construire une pédagogie adaptée sur le plan culturel et linguistique en s'inspirant des expériences des enseignants et de leurs précieuses ressources linguistiques et culturel. Un voyage captivant au cœur de l'éducation inclusive.
Et ce livre est une ressource incontournable pour les enseignants, les étudiants, les administrateurs, les parents et les jeunes chercheurs intéressés par l'inclusion dans l'éducation en francophonie ontarienne. Pour une expérience enrichissante, vous pouvez également écouter les balados du CREFO intitulés « Quoi de neuf » en parallèle à votre lecture. Vous pouvez acheter ce livre, voilà un petit cadeau de Noël peut-être, directement auprès de la maison d'édition Prise de Parole, en format papier ou électronique, pour commander votre exemplaire et plonger dans ces riches réflexions sur l'éducation en français en Ontario. Rendez-vous sur le site de prisedeparole.ca, prisedeparole.ca. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Édition Prise de Parole, 50 ans de Prise de Parole, ça se fête. Une émission exceptionnelle en guise de reconnaissance et en hommage aux éditions Prise de Parole, tous ses membres, tous ses écrivains, écrivaines, qui célèbrent le 50e anniversaire de leur fondation en 2023. Prise de Parole dépasse les frontières. Elle participe dans de nombreux salons du livre, notamment à Montréal, Toronto, en Allemagne, le Mexique et j'en passe. La maison accorde une très grande sensibilité aux œuvres littéraires autochtones, haïtiennes. D'ailleurs, plusieurs écrivains ont remporté des prix prestigieux, hein, plaçant ainsi Prise de Parole comme une des maisons d'édition importantes au pays. Et ce grâce au travail acharné, à l'énergie, l'esprit créatif et novateur de Stéphane Cormier et sa belle équipe. Et parmi nos coups de cœur, Robert Marinier, auteur d'une centaine d'émissions de télévision et de radio, homme de théâtre à Polyvalent. Il écrit, joue, fait de la mise en scène, enseigne et agit régulièrement en tant que conseiller en dramaturgie. Il est l'auteur d'une dizaine de pièces, dont « À la gauche de Dieu », l'insomnie, finaliste prix du gouverneur général en 1998, « Épinal » et un conte de l'Apocalypse, prix littéraire Trillium 2022, prix Champlain 2023. À découvrir sur le site web prisedeparole.ca. Une autre écrivaine que j'aime bien, Véronique Marie-Kay, romancière et dramaturge, elle a remporté deux fois le prix O'Neill Karsh du concours ontarien d'écriture dramatique. En 2014, elle a été finaliste au prix littéraire Trillium avec la pièce Afghanistan aux éditions Prise de Parole. Elle a aussi remporté le prix littéraire Trillium, la plus haute distinction littéraire de l'Ontario, pour son roman Marjorie en 2016. Ce roman qui raconte une semaine débridée dans la vie d'une jeune Otavienne des années 1950 plonge le lecteur au cœur d'une quête remplie d'humour et de tendresse, admirablement servie par les talents de conteuse de l'auteur. C'est une façon pour nous de remercier tous ces écrivains, écrivaines talentueux et exceptionnels qui nous font rêver depuis 50 ans. C'est à votre tour, chers amis, de vous laisser parler d'amour. Vous retrouverez toutes ces infos sur prisedeparole.ca. Dans un instant, de l'Acadie à la Nouvelle-Zélande, des dick pics sous les étoiles aux éditions Prise de Parole, un roman de Pierre-André Doucette. Un jeune homme qui porte plusieurs chapeaux, pianiste et écrivain. Pianiste, oui, je dis bien, reconnu pour la vivacité de ses paysages sonores et la musicalité de ses textes. Son recueil de récits sort comme si on était déjà là, paru en 2012 aux éditions Prise de Parole, a été finaliste au prix littéraire Émilie Olivier et a remporté le prix Héloïse, catégorie découverte de l'année. Par deux fois, il a été finaliste de l'épreuve de littérature des Jeux de la Francophonie, Beyrouth et Nice. Pierre-André détient un doctorat en interprétation du piano de l'Université de Montréal, où il a également été professeur invité. Ses projets musicaux l'ont amené à se produire un peu partout dans le monde et lui ont valu plusieurs distinctions. Et il est avec nous en direct en Nouvelle-Zélande. Bonjour Pierre-André Doucette, vous êtes déjà passé chez nous, hélas dans des conditions un peu difficiles, la faute à Covid, et la communication n'était pas si bonne. On a voulu vous avoir à nouveau aujourd'hui, parce que vous êtes un écrivain avec un immense talent de musicien. On voulait aussi présenter à nos auditeurs cette vaste palette d'écrivains hors normes, car la maison d'édition Prise de Parole ne cache pas sa volonté, son engagement de respecter les textes pas toujours conformes aux français standards. Avant de parler de votre livre, j'aimerais avoir votre opinion sur l'anniversaire des éditions Prise de Parole. 50 ans, ça se fête. Comment a commencé cette aventure avec Prise de Parole?
Donc, j'ai envoyé un manuscrit chez Prise de Parole en 2010. C'était mon premier manuscrit. C'était un peu n'importe quoi. Mais comme on me dit plus tard, il y avait quelque chose là. Donc, j'ai attendu 2 ans. Et c'est la merveilleuse Denise Truax qui m'a appelé un jour de décembre pour me dire « Bon, allô, merci d'avoir soumis ton manuscrit. C'est sûr que qu'est-ce que t'as là, on peut pas publier. » ce que je comprenais. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Denise a dit bon ben écoute, il y a quelque chose là quand même. On va t'envoyer voir une collaboratrice littéraire qui était Myriam Cusson. Vous allez travailler pendant un an et puis à la fin ben s'il y a quelque chose de potable, on publiera. Et puis pendant un an, moi et Myriam et ensuite moi et Denise, on a fait ce travail là où au final j'ai appris à écrire, parce que moi, ma formation était en piano, j'avais pas vraiment un background d'écrivain, j'écrivais, ben, parce que j'avais quelque chose à partager, et pour le plaisir aussi, mais chez Prise de Parole, on m'a vraiment enseigné comment me relire et puis comment écrire, puis ça, je vais toujours être reconnaissant que au sein du chaos que je leur ai envoyé dans ce manuscrit-là, ils ont vu du potentiel, puis ils ont dit « Oui, nous, on embarque. »
Alors, des dick pics sur les étoiles brossent le portrait d'un homme à la dérive. Un roman initiatique servi par une langue poétique et crue. On utilise souvent le mot « F », que je ne dirai pas à l'antenne, paru donc en 2020. Mais d'abord, j'aimerais qu'on présente un peu le contexte des dick pics sous les étoiles. Marc cumule diplômes, dettes et dick pics qu'il échange pendant les longues heures qu'il consacre sur les réseaux sociaux. Après ses études, il rentre à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où entre son emploi dans un centre d'appel et ses obligations familiales, il assiste à l'effritement de sa relation à distance. Comment est né Dick Pics sous les étoiles?
Des Dick Pics sous les étoiles, ça a été une œuvre de longue haleine. Ça a pris 8 ans de cogitation, de réflexion, de jet d'écriture, d'édition. Donc j'ai commencé l'écriture presque aussitôt après la sortie de mon premier recueil, sort comme si on était déjà là. Et au final, c'est sorti en 2020. Donc, ça a été un long processus. Avant d'aboutir au premier manuscrit même, j'étais très habitué à des formes plus courtes. Donc, l'écriture romanesque, ça a été un peu plus complexe à aborder. Mais encore une fois, Prise de parole a été très patiente avec moi. Et puis, je pense que ça a mené à une œuvre dont moi, je suis très fier. Un roman épénistolaire, une exploration, oui, des relations entre hommes, des relations romantiques, amoureuses entre hommes au 21e siècle, mais plus largement une exploration de comment on entre en relation l'une avec l'autre, avec les applications de réseautage, qui on est lorsqu'on est seul, lorsqu'on est en relation. Vraiment, c'est un roman initiatique, mais comme toute chose milléniale, l'initiation à la vie adulte vient à peu près 10 ans plus tard que prévu pour le personnage principal, Marc.
On sent chez vous qu'il y a des tonalités acadiennes et beaucoup de textos en anglais qui habitent ce récit. C'est aussi ça la réalité, hein, des jeunes, des Acadiens qui mélangent l'anglais et le français. Pouvez-vous nous lire un court extrait de votre livre?
Donc voici un extrait de Dick Pick sous les étoiles, du chapitre final du roman. Près du confessionnal, Marc réaménage un tas de chaises pliantes mal disposées. Une chaise à gauche, une rangée à droite, il les assemble en petits regroupements, puis en sections, tout orienté vers une énorme toile sur laquelle on diffusera bientôt la première d'un documentaire. Tout autour, une équipe fourmille achève les préparatifs de la soirée. On repasse les nappes pour les tables du nouveau café. On redresse les cadres de la galerie, on cloue les dernières planches de la scène. Du plafond, on pend une série de globes énormes, une traînée de lune. Devant sa table tournante, le DJ prépare des œuvres baroques et électroniques remixées, du chant grégorien, Amadou et Mariam. Une fois les chaises placées, Marc rejoint un groupe qui installe un panneau informatif. À cet instant même, le soleil couchant transperce les vitraux qui embrasent le parquet et font scintiller l'espace d'un jardin de corail. Un câble à la main, Marc se fait interpeller par quelqu'un qu'il reconnaît presque. Des traits noirs, un petit visage rond, quelque chose proche du familier. « T'es là depuis quand ?» lui demande-t-on. « Le début de l'été, là. 8-9 mois. » Ça, t'es ici pour de bon? Non, je suis juste de passage. Marc se demande s'il devrait toujours parler de Moncton comme d'une ville étrangère. Si autre chose l'attend vraiment ailleurs, si les endroits qu'il ne connaît pas encore justifient son mal du pays. Il dépose le câble, déchire un bout de ruban adhésif argenté avec ses dents, se ravise. Ben, pour un bout de temps, je devrais dire. Pour Astor, au moins. Toi, what's new? L'homme répond avec une économie de mots aux questions de Marc, qui ne parvient toujours pas à l'identifier. Il passe en revue sa courte taille, son pantalon mince, ses pommettes, sa voix rocailleuse, pas tout à fait celle d'un fumeur, mais proche de celle d'un fêteur en lendemain de veille perpétuel. Il échoue, lève les yeux. Les plisse en regardant les vitraux, là où la cathédrale s'abreuve au ciel. Il passe en revue l'alphabet, cherchant un nom de toutes ses forces. « Sont vraiment stunning, hein ?» lui demande l'homme. Apparemment, les vitraux du bas représentent seulement des femmes bibliques. C'est super rare pour une église. « C'est bien cool. J'avais jamais noté. Quand j'étais jeune puis que j'étais bored à la messe, je passais mon temps à essayer de les compter tous les morceaux. » « You know, t'aurais probably pas été gay si t'avais été un meilleur petit catholique. » J'aurais probably pas été gay si le prêtre puis everyone autour aurait arrêté de dire Amen pour 2 secondes. Pas ma faute.
C'est bien. C'est... Alors, c'est ça, hein, comme je vous disais, c'est un peu ce mélange d'anglais, de franglais, comme on dit, et puis cet accent acadien que nous aimons beaucoup, surtout mes amis bretons. Comment voyez-vous la circulation des œuvres littéraires francophones en Acadie et au Canada? Et pour terminer, vos vœux aux équipes de prise de parole.
Je pense que les œuvres franco-canadiennes circulent quand même bien chez nous en Acadie, de ce que je comprends ailleurs au Canada aussi. On nous fait de plus en plus des belles vitrines dans les médias au Québec aussi. Je pense à la revue Les Libraires. Je pense que le réseau de libraires indépendants aussi au Canada francophone, c'est une force qu'on a. Et puis qu'un bel exemple pour d'autres communautés qui vivent et qui explorent leur culture ou qui aménagent leur espace culturel partout dans le monde. Moi, je trouve qu'il y a une belle solidarité aussi entre les régions francophones du Canada, entre les maisons d'édition, entre les auteurs. Lorsque j'étais, pendant la pandémie, directeur du FRY, je sais que c'était une de nos préoccupations de faire une belle place aux voix de la francophonie canadienne et la diversité de ces voix-là. Puis je pense qu'on voit de plus en plus cette diversité-là aussi au sein de notre milieu, de plus en plus d'auteurs racisés qui trouvent des éditeurs qui les publient. De plus en plus de créateurs queer et de la communauté LGBTQ aussi. Je sais qu'au début, quand j'avais commencé à travailler des déclics sous les étoiles, il existait très peu d'œuvres franco-canadiennes où est-ce qu'il y avait des personnages ouvertement gays et qui exploraient des problématiques qui étaient propres à nos communautés. Puis depuis le moment que j'ai commencé à le travailler en 2012 et que je l'ai publié en 2020, ben, il y avait eu quand même plusieurs titres qui étaient sortis qui exploraient ces questions-là. C'est des œuvres de Céleste Godin, de Mo Bolduc, puis ensuite de Carl-Philippe Gionnet, Xavier Gould. Ça fait que je suis très heureux de voir qu'au sein de la francophonie canadienne, ces voix-là, qui autrefois auraient été marginalisées, prennent de plus en plus de place dans notre discours collectif sociétal.
Et pour terminer, vos vœux aux équipes de prise de parole?
Ben, je souhaite évidemment un autre 50 ans et même plus à toute l'équipe de prise de parole. C'est une maison d'édition qui occupe une place de choix au Canada francophone, qui est une institution pour la communauté franco-ontarienne, qui a tendu la main à toutes les francophonies du Canada, qui fait un travail exceptionnel aussi dans la traduction d'œuvres autochtones pour le marché francophone. C'est toute une belle panoplie d'auteurs et d'autoristes qui sont présents à la maison. C'est une équipe dynamique, intelligente, audacieuse qui est à la barre de cet organisme-là. Puis je suis très, très content de faire partie de cette grande famille et de la voir grandir encore.
Eh oui, merci infiniment, mon cher André Doucette, en direct de la Nouvelle-Zélande. Je ne vous dirai pas quand cet entretien a été réalisé, mais comme vous avez pu constater, nous avons fait un petit montage. Mille merci. Des dick pics sous les étoiles. Si vous ne savez pas ce que cela veut dire, ce que cela signifie, envoyez-moi un message à popourri@cut.fm pour avoir la traduction de ce titre aux éditions prise de parole.ca, roman initiatique servi par une langue poétique et crue, paru en 2020, à retrouver chez prisedeparole.ca et participez à notre jeu concours. Qui sait, vous pourrez la chance de gagner cet ouvrage. Pierre-André Doucette, auteur, pianiste, professeur, artiste engagé au sein de sa communauté, il cumule près de 15 années d'expérience en administration d'organismes sans but lucratif dans les domaines de la culture, la construction identitaire, les droits linguistiques, la santé, le leadership et l'éducation. Avec le pianiste Julien Leblanc, il partage la direction de l'été musical de Barachois au Nouveau-Brunswick. Merci encore Pierre-André. Bon séjour en Nouvelle-Zélande. Venez nous voir à Toronto si jamais vous passez chez nous. Nos bons vœux de fin d'année et tout le bonheur possible du monde en 2024. Que la force soit avec vous. Et oui, mesdames, messieurs, nous poursuivons bien sûr avec nos célébrations à l'antenne de prise de parole. 50 ans, ça se fête. Nous allons passer dans quelques minutes, je dirais une figure de proue hein, de la francophonie ontarienne qui n'a pas entendu parler d'André Lasselle qui est passé à cette émission à plusieurs reprises. Nous allons clôturer cette émission avec elle. Mais pour tout de suite, vous pouvez toujours nous envoyer vos coups de cœur ou encore si vous désirez gagner un livre cette semaine, aujourd'hui ou la semaine prochaine, écrivez-nous, allez sur le site d'abord de prisedeparole.ca, faites votre choix et on fera un tirage à la fin de l'émission ou la semaine prochaine. Popourri@cut.fm, c'est l'adresse courriel. Envoyez votre choix de livre prise de parole.
Prise de parole fête ses 50 ans en 2023. Un demi-siècle consacré à amplifier depuis le vaste ciel de Sudbury les histoires émanant des marges, à mettre de l'avant des œuvres littéraires qui éclairent la complexité et la richesse de la francophonie canadienne. Retrouvez les nouveautés littéraires de Prise de Parole sur prisedeparole.ca. Avec vous depuis 36 ans, chaque dimanche, de 11h à 13h, sur www.cut.fm ou sur le câble Rogers 946. Plus de détails sur popourishow.com. Longue vie à la maison d'édition Prise de Parole.
France 24. 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Édition spéciale sur CUT 89,5 FM, 50 ans prise de parole, ça se fête! Une émission exceptionnelle en guise de reconnaissance et en hommage aux éditions prise de parole qui célèbrent le 50e anniversaire de leur fondation en 2023. Cliquez sur prisedeparole.ca, / prix trait d'union littéraire pour découvrir les lauréats des prix littéraires depuis 1985. Aussi à découvrir, lieu dit, un florilège de nombreux lieux au gré des circonstances. Il y a Sudbury, mais il y a avant tout une poésie semée à tous les vents, en tous lieux. Et ce recueil est un livre de femmes réclamant cette position genrée. Leurs vers recherchent une voix collective, tout autant que des identités singulières entre le quotidien et le mythe. Une œuvre littéraire pour célébrer les 50 ans de prise de parole à retrouver sur prisedeparole.ca. Un autre ouvrage que j'aime bien, 500 ans de résistance autochtone de Gord Hill, membre de la nation Kawak. Il est auteur des bandes dessinées The 500 Years of Indigenous Resistance Comic Book, The Anti-Capitalist Resistance Comic Book and The Antifa comic book. Il s'implique depuis plus de 30 ans dans les mouvements autochtones et altermondialistes. Un livre à voir, à lire absolument. Une autre œuvre littéraire que nous avons eu le bonheur de présenter sur cette antenne, Maman la mère, suivie de Rendez-vous laqué de Janine Meillard. Laguerre plutôt, Janine Laguerre. Quel lapsus, comédienne, autrice et conteuse torontoise d'origine haïtienne. Eh oui, on a pu l'applaudir sur les scènes de nombreux théâtres canadiens et apprécier ses prestations dans plusieurs festivals de contes. À la télé, par exemple, de Mini TFO, les enfants la connaissent sous le nom de Madame Bonheur. Maman Laguerre, suivie de Rendez-vous laqué aux éditions Prise de Parole. C'est l'histoire de Marjolaine, frappée par une maladie étrange, cherche auprès de sa grand-mère guérisseuse, maman l'amée, le sang des visions et le sens des visions qui l'habitent depuis l'enfance. Maman la mère a été présentée à la Nouvelle Scène des Jardins, Ottawa, et au marché des arts du spectacle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. À retrouver sur prisedeparole.ca. Ce livre pourrait être le vôtre si vous m'écrivez immédiatement à popourri@cut.fm. Tirage sort au courant de la semaine. Dans un instant, rencontre avec une pionnière de la francophonie ontarienne, Andrée Lasselle. Elle est née en 1947 à Hawkesbury en Ontario, Canada, auteure, poétesse, traductrice, enseignante et critique littéraire franco-ontarienne. Ses œuvres sont traduites en anglais et en tchèque. Elle a occupé dans les années 70 et 80 de nombreux postes dans la fonction publique fédérale, notamment comme réviseur, traductrice et conceptrice de programmes de formation linguistique en français, langue seconde. Elle publie son premier recueil de poésie, Au soleil du souffle. En 1991, elle est la première francophone à recevoir le prix Trillium pour son recueil de poésie, Temps de vie s'égare. Publié en 1994. Ce recueil lui vaut également le prix de poésie de l'Alliance française. En 2019, Andrée Lasselle dirige Les poèmes de la résistance, publié par les éditions Prise de Parole, un recueil collectif de 37 auteurs. Vous vous souvenez, on avait parlé ici. 37 auteurs franco-ontariens en réponse aux restrictions budgétaires du gouvernement Doug Ford dans les services en français de la province. Oui, ça avait fait débat. Et les archives d'Andrée Lasselle sont conservées au centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. Andrée Lasselle est un grand témoin de la francophonie ontarienne. Elle vient nous présenter aujourd'hui son dernier recueil, Dire, paru en 2022 aux éditions Prise de Parole. Recueil en trois parties, elle revient sur 40 ans de pratique d'écriture, ouvrant une fenêtre sur l'atelier où se construit une œuvre inouïe. Travail fécond sur la mémoire, cet ensemble de textes met en lumière le parcours de la poète et permet d'en apprécier tant la rigueur que la générosité. Dans un instant, Andrée Lasselle. Et oui, c'est notre dernier invité de la journée, madame, monsieur. On clôture cette émission en beauté avec une grande de la francophonie ontarienne. Bonjour Andrée Lasselle et merci infiniment d'être des nôtres. En ce jour si spécial, 50 ans de prise de parole, ça se fête, n'est-ce pas?
Oui, bonjour Eric. Oui, je suis très très contente d'être là.
Alors vous êtes une figure de proue de la francophonie ontarienne. Vous avez vu les hauts et les bas de cette francophonie ontarienne et canadienne. Quel regard portez-vous sur les 50 ans de prise de parole, Andrée?
Oh mon Dieu, ben, je pense beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends.
Bon, d'accord. Alors oui, ben, écoutez, 50 ans, moi ça fait 44 ans. J'ai publié mon premier recueil chez Prise de Parole. Alors, pour moi, c'était très important parce que cette maison d'édition accueillait mes premiers poèmes et tout à coup, ça donnait, ça ouvrait un chemin pour moi et ça donnait un sens à ma vie d'alors et je dirais un sens dans tout sens. Donc, évidemment, j'ai poursuivi ma route avec Prise de Parole, où je me trouve encore aujourd'hui. Et quelle chance d'avoir eu cette maison d'édition dans les années 70, parce que moi, donc, c'était en 79 que je proposais mes poèmes. Et puis, c'était une maison naissante à ce moment-là. Et moi aussi. J'étais poète naissante, en quelque sorte. Donc, je suis très, très, très reconnaissante, évidemment.
Alors, l'épidémie de COVID-19 a eu un impact désastreux sur beaucoup de commerces, y compris les maisons d'édition. Mais selon plusieurs études et les officiels de la maison presse de parole, les francophones se sont réfugiés dans la lecture durant la pandémie de COVID-19. Si bien que les ventes de livres au grand public dans les librairies indépendantes ont augmenté de 18% en 2020. Et l'année 2021 a été historique pour la vente de livres en France. Et c'est grâce à la crise sanitaire. On a enregistré un record de 400 millions de livres vendus. On a vraiment senti que les gens avaient plus soif de lecture et que c'était une préoccupation pour eux d'effectuer des achats locaux, d'acheter des livres des auteurs franco-ontariens et québécois. Comment expliquez-vous cette tendance? Finalement, est-ce que le confinement a eu, on pourrait dire, des effets positifs, ou doit-on comprendre qu'il y a un avenir pour les maisons d'édition d'ici?
Retombée, hein? On peut se dire ça parce que finalement, il n'y avait rien de très rigolo à travers ces deux années et demie, en fait. Mais oui, et je pense que la lecture, ça invite à un recueillement, en quelque sorte. Et puis alors, donc, de se retrouver comme ça, un petit peu plus isolé qu'à l'habitude, je pense que ça a été propice. Une invitation donc à lire davantage, à se trouver dans les livres, parce que dans le fond, quand on écrit, on écrit oui pour soi, parce qu'on a besoin d'extraire ces choses de nous, mais on écrit pour l'autre, bien sûr, qui nous habite, hein, de toute façon. Alors je pense que on peut s'applaudir en quelque sorte avec cet événement qui a causé tellement de malheurs et de difficultés de vivre. Mais voilà, ouais, c'est ça, mais tant mieux.
Oui. Alors, revenons à nos moutons, André Lasselle.
C'est-à-dire?
Dire, en septembre 2022, oui, est un recueil en trois parties, en ouverture. Des mots nous entraînent sur les traces de l'enchantement qui, de tout temps, a caractérisé la relation d'André Lasselle avec l'écriture. Les textes allient prose, poésie, notes de lecture et références extra-textuelles exposant les innombrables ramifications de la création artistique. En lisant Dire, j'ai l'impression que c'est un travail sur la mémoire et sur la féminité. Est-ce que je me trompe?
Non, pas, voyons, c'est tout à fait juste. En fait, c'est quand j'ai pensé à ce livre, à ce recueil, quand je l'ai conçu quelque part, pour moi, je voyais l'acte de parole, le suivant, à savoir des mots, deux, une conversation, et puis trois, un poème, évidemment, parce que ça, c'est moi, je n'y peux rien. Alors donc, la première partie des mots, on se présente comme une sorte de carnet intime, hein, où j'explore une vingtaine de mots. Je donne des exemples, le mot rivière, arbre, langue, origine, femme, lumière, corps, amour, entre autres. Et puis, je fouille le sens et l'histoire de ces mots, et leur lien avec ma vie de l'enfance à maintenant. La deuxième partie, c'est une conversation. Alors, cette conversation, qui est un riche échange, je pense, avec Nicole Brossard, qui a eu lieu à Toronto en 2004, c'était le Salon du Livre à ce moment-là, de Toronto, et Nicole et moi avons été mises en présence autour des thèmes, le thème le voyage, le dialogue, le silence, le poème bien sûr. Et à la fin de cette conversation, en réécoutant ça il y a 3 ans, je m'entends exprimer j'avais pas eu le temps à ce moment-là de pousser plus avant. Et puis, ça m'a fait penser au fait que oui, dans mon parcours et ma démarche, dans le fond, c'est comment dire, à la fois l'intime profond et le moi social, hein, en osmose, dire l'être intégral. Et puis, aussi, bon, ma marotte, comment dire, ce qui m'échappe. Bon, c'est pas évident non plus. Alors, tout ça, c'est une entreprise assez difficile. Et puis, alors donc, c'est ça, ça m'a fait réfléchir un peu plus sur ce que peut-être était sous-entendu dans ce que j'exprimais à ce moment-là et que je ne pouvais pas aller plus avant. Et puis, la dernière partie, alors, c'est une suite poétique qui a pour titre « Préhistoire » au pluriel. C'est important pour moi, ce poème étrange, hein. Il est étrange pour moi aussi, où finalement j'ai une réflexion sur la parole qu'on prend et la parole qu'on perd. Et puis aussi, j'interroge l'étymologie du mot femme, hein, également. Et puis en cours d'écriture de ce poème, je suis tombée sur le livre de Tiu Lecoq, où les femmes, les grandes oubliées, en fait. Et donc, je découvre cette poétesse, prêtresse sumérienne de l'époque 2300 avant notre ère, serait l'autrice, si je peux dire, du premier je écrit. Donc ça, ça m'a touchée beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai voulu l'invoquer dans ce poème. Elle s'appelle Ndihuana, et puis donc voilà, donc j'ai voulu, parce que pour moi, je trouve important de ranimer ces voix de femmes enfouies, hein, de lire les poètes actuels femmes, inconnues, méconnues, et de tenter d'entrevoir la nature des mots des femmes à venir, ce qui n'est pas évident. Et donc, c'est peut-être ce sur quoi je cogite en ce moment. Donc, je ne peux pas en parler davantage parce que moi-même, je suis très perplexe devant mon entreprise. Mais bon, voilà pour dire, c'est un peu, ça résume un peu.
Oui. Ouais. Dire aux éditions Prise de Parole, pourriez-vous nous faire un cadeau aujourd'hui et nous lire peut-être un court extrait de Dire?
Bon, j'avais du mal à choisir parce que bon, il y a le contexte et tout, mais j'ai choisi, bon, dans la première partie, comme je disais, il y a une vingtaine de mots, j'en nommais quelques-uns, mais j'ai choisi de lire un extrait de ce qui se trouve sous le mot sacré. La voyageuse est dédiée à ma mère. Dans l'exemplaire que je lui offrais, j'écrivais ceci. À ma chère maman, à qui j'ai dédié la voyageuse, à toi maman, et cette petite journée que tu as connue enfant et qui m'a un peu inspirée, peut-être beaucoup, dans ces poèmes où le temps et l'espace s'abolissent. Le dernier vers de ce recueil, car le temps en est plus, a parfois été interprété comme fin de vie. Or, il s'agit plutôt d'une mort à soi qui ouvre sur un lieu intérieur de lumière, de grande libération, comme dans ce que me livrait alors ma mère, la soudaineté de l'instant hors du temps, une sorte d'expérience mystique, peut-être, en si peu de mots, car alors introuvables, ou encore leur sens rendu caduque, maman évoquera une seule fois cet entre-aperçu de l'absence à soi qui l'aurait mise en présence de d'on ne sait qui ou quoi, d'avoir frôlé de si près ce que j'appellerais un néant ardent, l'a rendue radieuse au seul rappel de cet instant qu'elle nommait ainsi ma petite journée. Serait-ce une part de sacré qui alors la traversa et resta à jamais lumière en son cœur? Voilà.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous avez vu les transformations, l'évolution de la culture franco-ontarienne. C'est sûr, on a fait beaucoup de progrès. Nous avons beaucoup de conseils scolaires, de nouvelles universités. On sent qu'il y a un engouement quelque part, hein, même si on a toujours quelques barrières, obstacles qu'on nous met dans les roues de temps en temps, n'est-ce pas? Pensez-vous que les médias francophones, je sais à l'époque, vous aviez une émission littéraire, hein, vous avez participé à des émissions littéraires à TFO, est-ce que les médias en font assez aujourd'hui pour justement donner la parole à des personnes comme vous et aussi ces nouveaux talents en herbe, parce qu'il y en a beaucoup. Regardez, oui, le jeune que nous avons interviewé avant, Monsieur Doucette de l'Acadie. Et parce que moi, mon problème, c'est que les gens n'ont pas, on ne donne pas assez de place, je pense, à des auteurs, à des autrices, à des personnes, des écrivains, pour s'exprimer, et on n'entend pas ces voix comme la vôtre. Pensez-vous que les médias ont une part de responsabilité?
Oh oui, assurément. Mais bon, écoutez, je ne sais plus comment en parler en quelque sorte, parce que, par exemple, vous en avez parlé au début de l'émission, ce collectif de 6 autrices, bon, dont je suis, mais bon, ce qui est plus important de retenir, c'est que dans Lieu-dit, c'est le titre de ce collectif paru en mai, en fait, c'était le coup d'envoi des 50 ans, hein, de prise de parole à Sudbury, j'y étais. Et donc, ce très beau livre rassemble des voix de femmes de différentes générations. Donc, moi, évidemment, je suis la doyenne, évidemment.
Et de culture et aussi. Et de culture aussi, parce qu'il y a une diversité culturelle au sein de ce groupe.
Tout à fait. Oui. Et puis, et aussi des questionnements, des interrogations tellement diverses. Et donc, ces 6 textes devraient être connus. Eh bien, moi, je n'ai pas encore vu personne s'interroger sur ce recueil, vouloir en parler avec l'une ou l'autre, ou quelques-unes des autrices qui s'y trouvent. Et donc, il y a là des perspectives d'avenir de voix littéraire. Ce sont des femmes, mais aussi, c'est aussi, la société a tellement été transformée, s'est tellement transformée depuis 50 ans. Hein? Alors, ce que ces 6 femmes ont à dire maintenant, c'est important, il me semble. Alors, je souhaite très fort qu'il y en ait qui soient curieux et qui aient envie de nous parler et qu'on puisse justement, comment dire, faire connaître ce livre, la pensée, les pensées qui traversent ce livre. Et puis, mais bon, je suis avec vous totalement dans ce questionnement qui est encore, c'est triste encore.
Hein, yes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je fais la navette maintenant entre Paris, Rennes, Toronto, et je vois justement ce bouillonnement d'idées, d'émissions littéraires en Europe. Bon, c'est sûr, on ne peut pas comparer l'Europe francophone et l'Ontario ou le Québec, mais je pense que il y a un public pour ça, mais il faut donner goût à ce public, qu'il y a des auteurs, qu'il y a des gens talentueux. Et d'ailleurs, à chaque fois que je voyage, j'apporte toujours un petit livre de prise de parole ou d'autres auteurs franco-ontariens à mes amis comme cadeau. Ils adorent ça parce que pour eux, c'est une découverte. Premièrement, c'est là qu'ils apprennent qu'il y a un Ontario français. Vous comprenez? Parce que souvent, on parle du Québec et un peu de l'Acadie, mais très rarement de l'Ontario. Vous comprenez? Alors.
Oui. Mais c'est vrai, Eric, je dirais que j'ai eu de la chance parce que en octobre, là, il y a à peine un mois, paraissait dans une revue bretonne bon, mon accent breton est pas au point, mais je vais vous donner le titre, Spérette Gouez, alors c'est l'esprit sauvage, hein, et donc un poète qui que j'ai rencontré au Bénin en 2009, Louis Bertholhomme, qui est un poète breton, m'a approché au printemps dernier pour parce qu'il s'intéressait justement bon à ma poésie culture franco-ontarienne ou autochtone, etc. Donc, il y a dans son numéro qui est paru en octobre une entrevue avec moi, donc où je réponds le mieux possible à ces questions. C'est toujours un peu bref, par contre. J'aurais aimé développer davantage, mais bon, il reste que... Voilà, alors, il y a un poète breton, une revue bretonne, très belle revue d'ailleurs, qui s'intéresse à nous.
Exactement. Et vous savez, actuellement, ce qui, comme on dit en bon langage canadien-français, ce qui poigne en France et surtout en Bretagne, c'est les œuvres littéraires, mais aussi des produits autochtones. Ça, c'est un succès fou. Si vous voulez donner un cadeau à un Français, surtout un Breton, allez lui trouver quelque chose à couleur consonance autochtone.
Oui, là, je lui ai envoyé quelques conseils, quelques suggestions. Des livres, d'ailleurs, parus chez Prise de Parole,
ouais,
entre autres.
Oui, oui. Ouais, alors, ça. Poète à franco-ontarienne, vous êtes une femme aux multiples talents, comme je l'ai dit. Vous êtes la première francophone à remporter le renommé prix Trillium avec votre recueil « Tant de vie s'égare ». Vous avez publié plusieurs recueils, dont « La voyageuse »,« La lumière et l'heure »,« La vie rouge »,« Demain l'enfance », prix de poésie du journal Le Droit. Votre poésie s'accompagne souvent d'œuvres d'artistes, photographies, huiles sur papier, dessins, illustrations qui ajoutent une dimension unique à votre création artistique. Et dans votre poésie symbolique, vous vous interrogez toujours sur cette solitude, l'isolement et sur le rapport avec le monde, par exemple dans « Tant de vie s'égare ». Quand avez-vous commencé, et là le temps passe malheureusement très rapidement, quand avez-vous commencé à écrire de la poésie et quand avez-vous commencé à vous considérer poète?
Oh! en fait, j'écrivais mon journal quand j'étais adolescente. C'est pas très original parce que je pense que ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais ce qui a été révélateur, c'est que soudainement, dans ce que j'écrivais chaque jour, qui était factuel, de l'ordre de ce que j'avais vécu dans la journée, tout à coup, soudainement, a surgi quelque chose qui ressemblait à un poème et qui n'avait rien à voir avec les textes que j'écrivais avant dans ce journal. J'ai senti tout à coup que je vivais dans une sorte de registre et que je ne quitterais plus. Et puis, ce poème, donc, a été une sorte de phare pour après. Donc, ensuite, ça a orienté, bien sûr, mes lectures, et puis très, très tôt. Et puis, j'ai écrit des poèmes. Ce que j'ai pensé qui était des poèmes, parce qu'en fait, ça prend un bout de temps avant de cheminer là-dedans. Et puis, pendant la vingtaine également, j'ai écrit beaucoup. Enfin, le premier recueil a paru, j'avais 32 ans en fait, mais c'était beaucoup des poèmes qui avaient été écrits dans la vingtaine, début vingtaine, 19-20 ans également. Ouais. Donc, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé, ouais.
Mais alors, vous êtes passé sur notre antenne il y a quelques années pour nous parler d'un projet, moi qui j'y pense toujours, c'était la première fois qu'on entendait ce projet ici, à cette antenne, c'était en tant que première poète officielle francophone de la ville d'Ottawa, c'était en 2017-2019, on peut y lire André Lasselle se donner pour mandat de rehausser la place qu'occupe la poésie dans la vie de la capitale nationale, c'est-à-dire Ottawa, pour les gens qui nous écoutent à l'étranger. La capitale nationale pour nous ici au Canada, c'est Ottawa. Et à deux reprises, elle a réuni des inédits de poètes et d'artistes visuels sur la liste Internet de la ville. Ce projet rêvant de pérennité s'actualise aujourd'hui dans le recueil Poèmes de la Cité qui regroupe 22 poètes et 21 artistes visuels. Une petite question avant de terminer. À l'ère numérique et l'intelligence artificielle, le monde de la culture est menacé. On a vu des dégâts aux États-Unis récemment, en France et plus près de nous au Québec, où une illustration générée par l'intelligence artificielle s'est retrouvée sur la couverture d'un roman, causant la surprise d'un auteur et de sa maison d'édition. Et même chez nous aussi, à la radio récemment, tenez-vous bien André, il y a des jeunes étudiants qui voulaient être animateurs de radio, ils ont été pris en flagrant délit car ils utilisaient l'intelligence artificielle. Est-ce que cela vous inquiète? En deux mots, parce que malheureusement le temps passe vite. Oui. En deux mots, est-ce que, là on pourra faire peut-être une émission avec vous là-dessus et d'autres auteurs, des écrivains. C'est quelque chose d'inquiétant, je trouve, n'est-ce pas?
Ben écoutez, je trouve ça aliénant, quelque part. Moi, évidemment, je suis tellement d'une autre époque. Mais bien sûr, je m'intéresse à tout ce qui se passe autour de ça, parce que c'est affolant, hein, quelque part. Ouais. Et donc, on ne veut pas non plus perdre le fil de ce qui se passe autour de nous. Mais, moi, je suis curieuse. Je suis curieuse. En même temps, je trouve ça menaçant. Ouais. J'ai pas encore vu les... j'ai pas encore pu me réjouir de ce mouvement-là. Je suis plus préoccupée que réjouie. Je pense pas que ça m'atteigne parce que bon, je suis tellement formée autrement. Hein.
Ouais. Alors.
Mais je pense à ma petite fille qui a 9 ans maintenant et qui va être dans ce mouvement-là. Hein.
Ouais. Dire d'André Lasselle, malheureusement, je dois vous laisser aux éditions Prise de Parole. Retrouvez sur prisedeparole.ca. Vous pourriez peut-être être gagnant-gagnante de ce beau recueil d'André Lasselle lors du tirage au sort. Écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. André Lasselle, un immense merci. Ce fut tout un plaisir de vous accueillir dans cette édition spéciale 50 ans Prise de Parole. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vos collègues à Prise de Parole en deux mots?
Voilà.
Merci à Sonia Malaborza, auteur de Prendre Racine, Isabelle Kiroak Massicotte, auteur de Trash, à Pierre-André Doucette, auteur des Dick Pics sous les étoiles qui était en Nouvelle-Zélande, André Lasselle, auteur de Dire, et merci à DJ Devera, Juliette Bisali et Stéphane Cormier de Édition Prise de Parole. Merci pour vos dons. Nous sommes actuellement à plus de 86 000 $. Vous pouvez toujours nous aider pour atteindre 100 000 $. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger si vous souhaitez, demain, lundi, sur popourishow.com. Et la semaine prochaine, un nouveau livre paru cet automne de Thomas Speer, qui vit à Manhattan, à New York, et est professeur de langue française, de littérature francophone. C'est notre correspondant City University of New York. Il y aura des nôtres pour nous parler d'un livre extraordinaire que vous allez aimer, j'en suis sûr. Ça s'appelle Les Mascarades de Wisconsin. Et oui, son premier roman aux éditions Amac. Et Roger Brideau, atteint d'une maladie grave, un grand ami de la radio, un pilier de la francophonie à Whitby. Et oui, alors il sera peut-être des nôtres la semaine prochaine. Et Zéfred, notre ami de toujours, qui revient avec son réveillon des orphelins dimanche 24 décembre à 19h30. Merci pour tout et merci à toutes les équipes qui ont aidé à réaliser cette émission. Merci de votre générosité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore, cher André Lasselle. Bon dimanche, bonne semaine. Que la terre, que la paix revienne sur cette terre et que la force soit avec vous. Allez, au revoir. Ciao, ciao, ciao.
Quand tu joues de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudot. Ils rêvent encore de l'Amérique qu'avait rêvé leur grand-papa. Qui pensait peu, qui pensait pas.
Ah! Nous, Acadiens, toutes les Acadiennes, vont sauter, vont danser sur les colons. Sont américains et sont américaines. La faute à qui donc, la faute à Napoléon.
Le coton c'est doux, c'est blanc, c'est chouette. Pour se mettre de la crème sur les joues. Mais ceux qui en font la cueillette finissent la journée sur les genoux. Alors le soir ils font de la musique comme celle de Rufus Thibaudot. Pour oublier que l'Amérique c'est plus celle de leur grand-papa. Ça a bien changé depuis ce temps-là.
Les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le melon. Sont américains et elles sont américaines. La faute à qui font, la faute à Napoléon.
Ils ont bossé 6 jours de file pour une poignée de dollars dévalués. Ils montent dans la vieille Oldsmobile et pensent à la ville d'à côté pour écouter de la musique, celle du grand Rufus Thibaudot, et pour repeupler l'Amérique à la manière de grand-papa.